Florent Courry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le nouveau procureur du parquet de Gap. Alors, à chaque changement, y compris dans un parquet, il y a aussi un nouveau cap qui est insufflé. On le sait, ce n'est pas que la loi pour le respect de la loi. Il y a aussi autre chose. Qu'est-ce qui fait chez vous votre différence?
Alors, d'abord, il y a toujours un temps d'observation lorsqu'on arrive sur une nouvelle fonction. Donc, le temps d'observation sur nos postes, il est assez court. Donc là, je suis déjà dans le temps de l'action et j'y étais d'ailleurs dès les premières semaines de mon arrivée à partir du mois de novembre. Alors, le cap moi, que j'ai fixé, c'est déjà, il y a un cap dans le management, il y a un cap dans l'action publique. Le management, puisque je suis aussi chef de juridiction dans les procureurs, c'est un management plutôt souple, bienveillant, pour rechercher l'adhésion de mes collaborateurs, parce qu'on fait un métier magnifique, difficile, mais il faut aussi avoir du plaisir à exercer nos fonctions. On sait que le ministère de la Justice souffre parfois aussi de difficultés, de moyens ou autres. Donc on essaie voilà, de travailler dans une bonne humeur. On fait un métier voilà, qui nous confronte à une réalité parfois difficile, mais voilà, un peu ce management. Après, le cap dans l'action publique, il est. Alors, le mot qui va revenir facilement, c'est toujours l'humanité que j'essaie de mettre dans mon action, parce que je sais que derrière chaque dossier, il y a une victime, il y a également un délinquant. Et le but d'une société, d'une défenseur de la société, c'est de lutter contre la délinquance et que la décision qui est prise apaise la société et évite la réitération des faits. Donc j'essaie voilà, d'individualiser au maximum mon action sur des champs prioritaires qui sont bas, c'est dans le département des Hautes-Alpes, mais voilà, essayer de ne pas avoir seulement une mécanique, comme vous le dites, de la loi pénale, mais une individualisation des situations au regard aussi du contexte du département.
Vous l'aviez dit, il n'y a pas lors de votre installation, il n'y a pas de véritable bouleversement avec votre prédécesseur, Raphaël Ballan. Il y a quand même une méthode qui est différente, c'est-à-dire ce sera quoi votre méthode?
Alors, ma méthode, c'est être sur le terrain au maximum. Parce que le magistrat dans sa tour d'ivoire, ça a existé. Parfois, certains le pratiquent encore. Moi, je suis de ceux qui aiment être sur le terrain pour vérifier comment mes actions, mes décisions sont perçues et sont appliquées. Parce que lorsqu'on a cette tendance à être parfois trop distant, finalement de la réalité, on peut être coupé finalement de nos décisions. Donc j'essaie, alors c'est pas facile parce que moi je suis un parquet modeste, j'ai pas 100 magistrats sous ma responsabilité pour être seulement dans la relation publique, être sur le terrain. Et moi je suis aussi comme mes substituts de permanence à l'audience, je dirige les enquêtes et j'aime être aussi auprès des enquêteurs et auprès ben, finalement aussi de la société civile et dans la société civile.
Vous l'avez évoqué hein, rapidement, cette situation un peu complexe au niveau de la justice. Raphaël Ballan avait lancé en janvier 2018 sur Alpe 1 « À force de crier dans le désert, je deviens aphone ». Alors une déclaration qui faisait référence à des moyens laissés à la justice, et là je le cite, « misérable, voire méprisant depuis une dizaine d'années, on pourrait faire tellement mieux, c'est vrai ?»
Alors il faut quand même saluer les efforts qui ont été faits par le ministère de la Justice, notamment sur les postes de magistrats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de postes vacants dans la magistrature. D'ailleurs, au parquet de Gap, il faut être honnête, il n'y a pas de postes vacants. C'est-à-dire que les effectifs sont complets. Alors moi, je milite pour avoir plus de magistrats parce que j'estime que les évaluations qui avaient été faites à l'époque peut-être changent aussi parce que la délinquance a aussi explosé ici comme ailleurs. Mais il faut quand même saluer ce point voilà, de la magistrature qui, voilà, les postes sont occupés. C'est peut-être un peu moins le cas au niveau du greffe, c'est-à-dire des greffiers, des fonctionnaires de justice, où là, il y a encore des postes un peu plus nombreux qui sont inoccupés. Et finalement, c'est un travail d'équipe. Le magistrat sans son greffier, ben, la justice peut en souffrir aussi. Mais voilà, il faut quand même voilà, souligner les efforts qui ont été faits. Et moi, je dis en tous les cas pour la juridiction de Gap que voilà, je ne suis pas à plaindre. La juridiction fonctionne bien et elle rend voilà, de bonnes décisions pour les justiciables.
Vous n'allez pas devenir tout de suite aphone?
Pas encore, non.
Vous avez débuté au parquet de Dunkerque, rejoint la cour d'appel d'Aix-en-Provence jusqu'en 2011, puis le tribunal de grande instance de Marseille avant de devenir substitut général de la cour d'appel de Grenoble. Donc les Alpes du Sud, finalement, vous connaissez bien. On a pu notamment, enfin vous avez pu suivre notamment le crash de la Germanwings dans les Alpes d'Haute-Provence. Dunkerque, Aix, Marseille, Gap, Grenoble. Là, on passe de l'urbain au montagnard. Ça demande donc une approche plus personnelle, plus personnalisée. Plus complexe peut-être.
Oui, alors c'est l'intérêt aussi un peu de nos fonctions, c'est-à-dire que quand on devient magistrat, on est un magistrat généraliste, et finalement au gré de nos mutations, on va acquérir des spécialités. Et elles deviennent réalité au regard du territoire. Voilà, j'ai travaillé dans des petites, dans des grandes villes, dans des villes méditerranéennes, dans des villes du nord, dans des villes de montagne. Mes deux derniers postes sont dans des villes entourées de montagnes, donc il y a une vraie spécificité de la montagne.
C'est quoi justement cette spécificité, y compris au niveau de la justice ?
Alors, déjà, il faut savoir que qui dit montagne dit pratiquant de la montagne, dit tourisme lié à la montagne et dit forcément accidentalité. Et forcément, c'est des dossiers qui peuvent arriver un jour sur le procureur de la République, sur le bureau du procureur de la République. Alors, il ne s'agit pas de pénaliser à outrance tous ces comportements et toutes les fautes qui auraient pu être commises, mais il arrive parfois que, notamment dans les activités encadrées de montagne, où un accident se commet, où il peut y avoir une mise en cause de la responsabilité de l'encadrant. Après, la spécificité de la montagne, c'est aussi, moi je crois, aussi un état d'esprit chez les personnes, c'est-à-dire alors, et un état d'esprit que moi je trouve très honorable et qui correspond aussi à ma personnalité. Et cet état d'esprit montagnard, je trouve qu'il est assez noble.
Alors, vous savez que vous allez être très attendu au détour de certains sujets brûlants dans les Hautes-Alpes, et notamment le drame migratoire. Lors de votre installation, vous avanciez votre fonction, et vous l'avez répété encore aujourd'hui, avec humanité, car l'humanité est au centre de nos métiers. C'est aussi ce que demandent les militants du côté de la frontière, notamment Montgenèvre et dans le Briançonnais, quand ils viennent en aide à des migrants qui sont en péril. Ils demandent de l'humanité. Comment on trouve l'équilibre dans ce sujet entre le respect du droit, c'est-à-dire qu'il y a des règles pour un mineur qui se présente à la frontière, eh bien, il est pris en charge par le département. Quand il s'agit d'un majeur, il y a des droits, et notamment quand il n'y a pas de papier, eh bien, les situations irrégulières sont refusées. Et puis, il y a l'humain aussi dans ce sujet, il y a la détresse de ces personnes.
Alors d'abord, avant d'être procureur de la République, je suis un citoyen. Et le citoyen, forcément, il ne peut pas se réjouir des drames que vivent ces migrants, parce qu'on va les appeler comme ça, puisque c'est le terme qui est usité. Ces personnes, elles sont en difficulté. Et d'ailleurs, si elles n'étaient pas en difficulté, elles n'essaieraient pas de venir sur notre territoire. Donc ça, c'est des personnes vulnérables que le droit et que la loi doit aussi protéger, parce que le rôle de la loi, c'est aussi de protéger les plus faibles. Ces personnes-là, d'ailleurs, il faut le rappeler, elles ne sont jamais traitées pénalement. C'est-à-dire que lorsqu'elles sont interpellées, contrôlées, appréhendées par les services de police et qu'elles ne sont pas titulaires de papier, il n'y a jamais de poursuite pénale à leur encontre. C'est-à-dire que c'est des procédures administratives qui sont utilisées. Et ensuite, pour venir sur les personnes qui aident...
Ce fameux délit de solidarité.
Voilà. Alors, moi, ce que j'ai dit, et je le redis, et c'est parfaitement clair, c'est le délit de solidarité, il ne s'applique pas pour l'aide à l'entrée sur le territoire. Donc, ne pas m'être opposé si une personne va chercher en Italie un migrant pour le faire venir en France, le délit de solidarité, puisque en Italie, on ne peut pas considérer que les personnes sont privées des soins et de toute sécurité.
Mais si elle vient en aide à quelqu'un qui est au bord de la route en situation difficile ?
Alors, en situation difficile, moi, je considère que si la personne, qu'elle soit avec des papiers ou sans papiers, en danger, que sa sécurité, sa santé peut être compromise, bien évidemment, c'est le rôle de tout citoyen d'apporter une aide à cette personne. Et sur ce sujet-là, je serai très vigilant dans la loi pénale et je ferai une application peut-être bienveillante de la loi pénale à l'égard, je le répète, des seules personnes qui rencontrent une personne en difficulté sur les territoires français et qui lui apportent l'aide stricte et nécessaire.
Vous savez que le rôle de la police aux frontières de la PAF a été mis à mal il y a quelques semaines, quelques mois en arrière par un rapport d'une ONG. Votre rapport, vous, avec la police aux frontières et avec ce drame migratoire, ce sera quoi ? Quel est le message que vous leur faites passer ?
Moi, les rapports sont forcément excellents avec la police aux frontières et les fonctionnaires de la police aux frontières. Il y a un directeur interdépartemental qui est au haut niveau, avec qui j'ai des rapports réguliers et qui partage une conception de la justice et qui est la mienne aussi. En réalité, je crois que il y a un focus parfois disproportionné qui est apporté sur ce sujet-là. Et le travail judiciaire, parce que c'est un travail judiciaire aussi de la police aux frontières, l'action elle est mise d'abord sur les passeurs. Et là, tout le monde convient qu'il faut lutter contre les passeurs qui tirent profit de ces personnes, souvent d'ailleurs en faisant payer le passage en France. Donc là, il y a une lutte importante avec des enquêtes qui sont menées par la police aux frontières. Et puis après, la police aux frontières au poste de Montgenèvre, elle est sur le terrain, donc elle rencontre aussi toutes ces personnes. Et lorsqu'elle rencontre une personne qui est sans papier, son rôle, c'est aussi de la récupérer et de mettre en place les mesures administratives. Donc je sais que son action a pu être critiquée. Je ne dis pas que parfois, isolément, il y a pu avoir des dossiers critiquables, mais c'est valable à la PAF comme dans d'autres services. Il n'y a pas aujourd'hui une institution qui n'est pas critiquée. En tous les cas, moi, depuis que je suis ici, je n'ai vu aucune dérive et la moindre dérive sera sanctionnée.
Et l'évolution, vous parliez des passeurs, est-ce qu'il y a une évolution à la hausse, à la baisse ou stagnation au niveau des passeurs, du réseau de passeurs?
Alors, en réalité, ils s'adaptent aussi, les passeurs. Donc, du coup, il y a peut-être parfois des redéploiements ou des portes d'entrée différentes. Je pense qu'on est dans une période un petit peu plus moins importante au niveau des passeurs. Je ne dis pas qu'il y a moins d'entrées, mais en tous les cas, on a fait un petit peu moins d'interpellations ces dernières semaines, ces derniers mois, ce qui montre aussi que l'action dissuasive est répressive et efficace contre eux.
Alors, vous avez aussi fixé comme axe d'importance la lutte contre les violences conjugales. C'est un vaste débat aussi au niveau national comme au niveau départemental, avec des victimes qui se sentent parfois peu ou pas entendues. Quand elles se présentent auprès des autorités d'un poste de police, elles arrivent déterminées, elles finissent souvent chez elles avec une main courante.
Alors exactement, alors ça a été un des premiers sujets là, sur lesquels je me suis emparé quand je suis arrivé. Et immédiatement, j'ai proposé au service de police de gendarmerie de signer un protocole qui prohibe la main courante. Alors la main courante, c'est plutôt utilisé pour les services de police. On est sur le renseignement judiciaire pour la gendarmerie. Mais on a signé une convention, mon initiative, qui prohibe la main courante pour les violences conjugales. Donc aujourd'hui, toute personne qui se dit victime de violence par son conjoint, concubin, ex-conjoint ou paxé, et qui arrive dans un commissariat ou une gendarmerie, soit dépose plainte, si c'est son souhait, soit est entendu par la gendarmerie ou la police, mais il n'y a plus de main courante. Et toutes ces auditions, c'est la nouveauté aussi, et sont transmises sous 48 heures à une association d'aide aux victimes qui va faire aussi une évaluation.
Parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a déposé plainte, qu'est-ce qu'on fait? On retourne chez soi sous peut-être la menace de son conjoint qui peut être violent, ou est-ce qu'on part? Et c'est là aussi où les associations ont un rôle à jouer, c'est-à-dire le rôle d'éloignement.
C'est difficile parce que, alors, il y a deux types d'éloignement. Il y a l'éloignement de la victime et l'éloignement de l'auteur. L'éloignement de l'auteur, il peut être fait que sous main judiciaire. L'éloignement de la victime, l'accompagnement de la victime, ça, c'est des associations. Il existe quelques foyers qui peuvent accueillir ces personnes qui sont victimes de ces infractions. Mais c'est aussi regrettable que ce soit la victime qui subit déjà des violences physiques, psychologiques, qui soit obligée de quitter le domicile. Donc là, c'est le levier qu'on peut avoir, nous, sur les auteurs, mais pour intervenir sur l'auteur, il faut le faire assez rapidement. Et on ne peut pas, sur toutes les plaintes, dans les 48 heures, régler la situation, parce qu'il faut aussi mettre à niveau les faits qui sont dénoncés. Tous, et heureusement, ne sont pas des violences exceptionnellement graves. Alors, il faut traiter toutes les violences, quelles qu'elles soient, mais on ne peut pas débarquer au moindre signalement au domicile, interpeller l'auteur, le placer en garde à vue et le mettre en prison. Donc il faut qu'il y ait un équilibre aussi à trouver
dans ce sujet. Le trafic de stupéfiants fera partie de vos luttes, un trafic qui inquiétait Raphaël Ballan, puisque selon lui, il devenait de plus en plus dur dans les produits avec l'arrivée sur le département du crack. Est-ce qu'on peut dire que les Hautes-Alpes sont aussi victimes de la géographie, c'est-à-dire situées entre l'Italie, Grenoble, Aix-Marseille?
Exactement. Alors, on est un département qui, sur le territoire, peut sembler isolé, mais en réalité, les voies de circulation pour mener à Gap, elles sont très simples. On a une autoroute qui est pratiquement dédiée et qui arrive dans Gap. Il y a la proximité, vous avez dit, de l'Italie. Lyon n'est pas si loin, et il y a eu aussi des dossiers en lien avec des Lyonnais. Alors oui, il y a de plus en plus de drogues sur le territoire, mais c'est vrai aussi dans d'autres villes, de taille moyenne, pas seulement dans les grandes métropoles. Il y a aussi, comme c'est une ville aussi qui est touristique, forcément, on a pendant des périodes réduites des touristes qui arrivent et qui ne sont pas toujours armés de bonnes intentions et qui profitent aussi de leur venue sur le territoire pour vendre des produits stupéfiants.
Un trafic qui se durcit aussi au niveau des produits?
Alors, ça dépend des périodes. Alors, le crack, oui, on a eu quelques procédures, mais il ne faut pas non plus généraliser. Ça reste des dossiers très isolés. Et les produits les plus importants qui sont sur le marché sont la résine de cannabis, l'air de cannabis et un peu de cocaïne. On a quand même très peu de dossiers, heureusement, avec l'héroïne ou du crack.
Cela fait des années que le parquet de Gap des Hautes-Alpes lance une tolérance zéro. À la fois, c'est Philippe Tocani, Raphaël Ballan, ce sera vous aussi, votre cas, tolérance zéro pour toutes les matières stupéfiantes.
Exactement, tolérance réseau. Et en fait, s'attaquer aussi au volet du consommateur sous l'angle santé publique. C'est-à-dire que s'il y a des ventes de produits stupéfiants, c'est qu'il y a des usagers aussi. Donc il ne faut pas oublier aussi le versant usager et pas traiter seulement le vendeur de façon ferme, et traiter l'usager avec des mesures alternatives, des mesures de stage de sensibilisation, des mesures y compris d'accompagnement avec des médicales aussi.
Moins de répression, moins de punition, j'allais dire, pour l'usager, un peu plus d'accompagnement
Alors, La répression et l'accompagnement, c'est-à-dire la sanction, parce qu'il faut être sanctionné, c'est puni aujourd'hui d'un an d'emprisonnement, l'usage de stupéfiants. Il y a pu y avoir des débats sur la dépénalisation, ou la... Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, je traite pénalement les usagers, tous les usagers, mais j'essaie de aussi, pour les sortir de cette consommation, les accompagner avec des mesures d'aide.
Alors, dernier point, et ce sera la dernière question, les atteintes à l'environnement, vous y serez attentif. Est-ce qu'on va vous voir au volant d'un camion retourner à l'envoyeur des décharges sauvages, comme ça a pu être fait, notamment dans la commune de Lagneuville, dans l'Oise?
Alors, l'environnement, c'est un beau sujet, parce que c'est notre département, il est quand même magnifique, et donc il faut le préserver. Et alors, l'environnement, il ne se traite pas seulement sous l'angle pénal, c'est un des angles d'attaque que je souhaite aussi initier. Pour le préserver, ben, j'essaierai aussi avec mes enquêteurs spécialisés d'ouvrir des enquêtes, alors sur les faits les plus graves de déchets, d'ordures qui ne respectent pas les réglementations, mais aussi, on va dire plus modestement, sur les pratiquants de la montagne voilà, qui la polluent et qui ne la respectent pas.
Merci beaucoup Florent Crouy d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le procureur du parquet de Gap. Merci d'avoir été l'invité du 8:30.